I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Grande Flore Café. Hugues Robert.
Bonsoir, bienvenue au Grande Flore Café. On est le 28 juin, une radieuse journée d'été. Il fait chaud dans le studio, il fait chaud à l'extérieur. On est toujours aussi libre et curieux. Ce soir, on va moins parler de littérature que d'habitude, mais on va toujours parler de livres, même si on ne va pas parler seulement de livres. On va parler d'une collection et d'où elle vient, en fait, une collection qui s'appelle Les Jours, donc ça c'est notre aspect livre, mais donc d'une émission, d'un nouveau média qui s'appelle Les Jours. À partir de trois de ces exemples, on a ici sur le plateau ce soir plusieurs des fondateurs, pas seulement des fondateurs, mais aussi donc des auteurs de la collection. Raphaël Garrigos, Isabelle Roberts, qui sont parmi les fondateurs des Jours et qui ont écrit récemment L'Empire, comment Vincent Molloré a mangé Canal+, et bien d'autres choses. Pardon, ça, c'est moi qui ajoute et bien d'autres choses.
Oui.
C'est pas
Bonsoir.
Dans le titre.
Bonsoir.
On a également avec nous donc Patricia Touranchaud, qui n'est pas une fondatrice, mais qui est une journaliste freelance, mais qui donc récemment écrit pour Les Jours Grégory, la machination familiale, qui a un travail d'archéologie assez incroyable autour d'une affaire qui a emballé les médias à certaines époques et beaucoup moins à d'autres époques et qui est revenu au goût du jour en 2017.
Bonsoir.
Et on a donc Sofiane Fanen, qui a écrit, non pas dans la collection Les Jours du Seuil, mais au Castor Astral, dans la très belle collection Castor Musique, Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, La Musique Libérée. Et on commentera certainement tout à l'heure ce dernier adjectif, La Musique Libérée, qui est effectivement chargée de plein d'ambiguïté et qui a également un travail d'archéologie tout à fait contemporaine sur la musique et son économie, qui est absolument passionnant. Avant de rentrer donc dans chacun des ouvrages, on va essayer, grâce à nos invités, de comprendre finalement les jours, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce que ça apporte que les médias traditionnels, papier ou autres, n'apportaient pas. Alors, sachant que je vais révéler à nos auditeurs, s'ils lisent attentivement les quatrièmes de couverture et le site internet, que vous avez tous travaillé quelques années, ou voire beaucoup d'années, notamment à Libération. Donc, vous connaissez la presse écrite traditionnelle, presse écrite, qu'on va dire, de qualité. On ne parle pas de journaux gratuits qu'on distribue le matin dans les escaliers du métro. Alors là, dans quel ordre, je ne sais pas, celui qui se sent ou celle qui se sent y va. Les jours, qu'est-ce que ça amène de nouveau et de différent ?
Ce que ça amène de nouveau et de différent, c'est-à-dire qu'on prend des sujets dans l'actualité, et toujours dans l'actualité parce qu'on aime l'actualité, on veut pas faire du journalisme froid, et on prend ces sujets dans l'actualité et on les creuse profondément et très 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 profondément, parce que par exemple vous parliez de l'Empire qu'on écrit avec Isabelle, et on en est à 101 épisode, ce qui est en train de tourner au feu de l'amour des jours. Et si je parle des feux de l'amour, c'est à dessein, parce que l'autre particularité des jours, c'est qu'on met en scène nos séries, qu'on appelle des obsessions, comme des séries télé. C'est-à-dire que chaque nouvel article est un épisode, et c'est-à-dire qu'on a des personnages. Alors nous, dans l'Empire, nos personnages sont Vincent Bolloré et toute la clique de Canal+. Et dans Grégory, par exemple, qu'a fait Patricia Touranchaud, eh bien, on a toute la famille, et on a un arbre généalogique tellement c'est dense, cette histoire-là. Et donc il y a cette idée de faire un peu du... C'est un lecteur qui nous a dit ça une fois, qu'on était un peu le Netflix du journalisme. C'est quelque chose qui nous va bien, et on prend.
La différence entre Libération, par exemple, où je faisais les faits divers aussi, et Les Jours, c'est qu'on peut mettre en perspective, on peut traiter ces faits divers-là vraiment comme un feuilleton policier, avec des personnages bien identifiés, dont on fait les petits portraits. On peut cliquer sur leur visage pour avoir, quand on lit l'épisode, pour savoir qui est ce personnage. Et tout se passe dans un lieu et avec des gens bien déterminés. Il y a une mise en scène quoi, hein, qui est différente et qui rappelle les feuilletons policiers du début du siècle. Quoi.
Alors, j'aime bien cette idée de feuilleton et de mise en scène, parce que je m'étais aussi posé la question, hein, en découvrant Les Jours, de finalement, qu'est-ce qui... Alors, par rapport aux médias traditionnels, mais également par rapport à quelque chose qui s'est beaucoup développé sur ces 10-12 dernières années, qui sont les web documentaires, y compris des web documentaires d'une grande qualité, avec un côté investigation où on se donne le temps de creuser, mais on n'est peut-être pas effectivement dans la même logique d'actualité, de production. Est-ce qu'il y a un aspect web documentaire aussi dans ce que vous faites, hein?
Il y a surtout un aspect raconter l'actualité à la manière de série. C'est-à-dire que le feuilleton journalistique, c'est vieux comme le journalisme, hein, ça date du 19e siècle, mais ça trouve un écho aujourd'hui à notre époque avec le langage des séries. Et au début des jours, ce qu'on constatait, c'est que souvent sur Internet, on retrouvait des reproductions de journaux papier sur le web, ce qui n'a aucun sens parce que les pages n'ont plus de sens, les rubriques n'ont plus de sens. Donc nous, on a commencé par casser les rubriques et dire on va travailler à partir de sujets. Donc on va prendre des sujets, mais une fois qu'on les aura pris, on va pas tout traiter, on renonce à l'exhaustivité. En revanche, les sujets qu'on va traiter, on va les traiter à fond, sous forme d'épisodes et à la manière de série qui se prête particulièrement sur Internet, en fait. Et ce que Raphaël vous disait tout à l'heure, quand on nous a dit qu'on était le Netflix du journalisme, on était très contents parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire. En fait, on trouvait qu'il y avait tout un tas d'outils numériques qui n'étaient pas assez exploités par la presse sur Internet. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'était important pour nous, c'est de donner une grande place à l'image. C'est vrai que sur Internet, on avait tendance à mettre peu d'illustrations. Et nous, on tient à avoir une production photo, à faire travailler des photojournalistes indépendants. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on a essayé à la fois d'apporter de ce qu'on avait connu à Libération, à savoir une certaine mise en scène de l'info, mais appliquée au numérique et au langage de l'époque.
Et si les gens, par exemple, vont voir ce que fait Patricia, on a fait un travail photographique alors qui est beaucoup de... Il y a beaucoup d'archives, par exemple, parce que Patricia a fait plusieurs séries pour Les Jours sur le 36, donc le siège de la police parisienne. Mais aussi, elle a fait une série qui s'appelle Le Grêlé, qui est consacrée à un serial killer français qui n'a jamais été attrapé. Et pour ça, on a fait travailler un photographe qui s'appelle Pierre Morel et qui nous a fait des photos baignées dans le mercurochrome.
Et de tous les lieux de l'histoire. Quoi, avec un style très particulier, ça c'était génial. Et on fait de la récupération de photos aussi. Pour le 36, par exemple, les vieux policiers de la police judiciaire parisienne m'ont donné les photos de leur bureau de l'époque. On resitue comme ça l'histoire du Grêlé, par exemple, qui commence en 1986 par un crime de petite fille à Paris et qui n'est toujours pas terminé. On a des photos d'époque, des bureaux où les enquêteurs ont travaillé, des photos de l'escalier, des photos de la petite fille que son frère nous a donnée, qui était totalement inédite, hein, avec son petit chien. Voilà, il y a vraiment une politique photo qui est super.
Et sur le côté webdoc, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé quand on a discuté en amont de la création des jours, parce qu'on a beaucoup 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 parlé. Et le webdoc revenait souvent dans nos discussions, mais de façon un peu déceptive. C'est-à-dire que le webdoc c'est super, mais vraiment personne ne les lit. Et ça, c'est un vrai problème du webdoc parce que, en fait, le côté interactif, ça fonctionne pas avec les lecteurs. Ils ont envie qu'on les prenne par la main, les lecteurs. Moi, j'en parle dans mon livre aussi. C'est pareil dans la musique, c'est pareil pour la vidéo, c'est pareil pour tout. Donc, il fallait un peu revenir au cœur de la lecture. Et nous, c'est vraiment notre préoccupation, même quand on a fabriqué le site, quand on a pensé tout ça. En fait, on a rassemblé tout ce qui faisait simple et tout ce qui était le cœur de la lecture, et c'est-à-dire du texte, des lettrines pour emmener le lecteur dans le texte, des belles images, de l'édition aussi, c'est-à-dire un travail sur le titre, sur les exergues, etc., pour vraiment, et ça encore une fois comme le feuilleton journalistique, en fin de compte c'est des outils qui ont un siècle et demi, donc on n'a rien inventé, on a juste ramené les fondamentaux de la presse écrite sur Internet, ce qui n'avait pas forcément encore été fait.
Alors une chose qui m'a frappé aussi, et c'était valable en fait en lisant les trois ouvrages dont on parle ce soir, sur Ground Floor Café. C'est que j'ai trouvé aussi, oui, qu'il y avait une forme de, à la fois de retour à un certain nombre de fondamentaux du journalisme, alors que tous les journalistes devraient évidemment pratiquer en permanence, mais qui sont cette distinction très claire, très apparente, mais qui n'est pas lourde, entre les sources, le travail qui est sourcé, donc qui est documenté, et puis la spéculation ou l'opinion, en fait, du journaliste ou de l'écrivain. Et c'est marrant parce qu'en lisant, bon, c'était flagrant évidemment sur Grégory, j'ai pensé à quelqu'un qui, lui, n'est pas journaliste, mais qui est un écrivain de fiction, mais qui, depuis maintenant quelques années, a écrit une succession, en fait, de travaux d'archéologie criminelle, qui est Philippe Jaénada. Et que ça soit effectivement son Sulac, La Petite Femelle, ou son dernier, La Serpe, oui. Où il y a ce travail où il se plonge avec une espèce de délectation assez incroyable dans des archives des années 50, des années 60, jusqu'aux oreilles. Et puis ensuite, il en extrait une vérité non négociable, et puis des espaces un peu spéculatifs où là, lui, il intervient cette fois en tant qu'écrivain de fiction en disant « à mon avis, voilà ce que ça veut dire ». Et j'ai trouvé que sur une affaire aussi complexe et où effectivement, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais les éléments matériels ont été à la fois gâchés pour en grande partie
par le temps
et puis parce que la façon dont a été conduite l'enquête initialement, sans jeter la pierre nécessairement
aux gendarmes
qui ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main et avec les présupposés qu'ils avaient. Et puis on est maintenant tous, journalistes comme simple public, on a été formés par des années d'experts de NCIS et tout ça. Si on se reporte en 1984, ça n'existait pas, en fait.
Scientifique néant, voilà. À l'époque. Mais par rapport à Philippe Jaénada, qui fait c'est excellent ce qu'il fait. Moi, j'adore tous ses livres, et puis je l'adore lui en tant qu'homme, en tant qu'écrivain. Mais lui, c'est vrai qu'il se met en scène. Moi, j'ose pas le faire dire « je ». Mais dans la manière de traiter, la manière de faire des impasses aussi sur des bouts de l'histoire qui viennent polluer le récit et dont on n'a rien à faire, on fait des choix de commencer une histoire. Ben, cette histoire, on la commence. Les rebondissements dans l'affaire Grégory, les arrestations du couple Jacob soupçonnés d'être les corbeaux de l'affaire Grégory interviennent le 14 juin. Et nous, sur les jours, le premier épisode, on le sort le 15 juin et il est consacré au début de l'affaire. Bien avant la mort du petit Grégory, comment cette histoire commence. Donc on est à la fois dans de l'actualité, mais on s'en affranchit et on va retourner dans le passé pour faire des allers-retours après, tout sans arrêt dans le livre, entre le passé et le présent. Pour réussir à comprendre cette histoire aujourd'hui, il faut se replonger dans le passé. Donc on fait des allers-retours. Et ça, on peut le faire sur un site comme Les Jours. On ne peut pas le faire dans un quotidien français.
Alors, moi, je me posais cette question parce que bon, voilà, je suis pas du tout, j'ai pas du tout l'expertise et surtout la connaissance de l'intérieur que vous avez de médias. Bon, prenons Libération pour illustrer, mais c'est certainement valable. Non, mais c'est vraiment valable des autres qui ont dû en plus s'habituer ces dernières années, plus ou moins adroitement, mais à travailler en permanence entre le support papier traditionnel qui paraît le matin ou le soir pour d'autres, et puis le quotidien en ligne, avec ses articles payants ou gratuits, toute une complexité technique et économique et marketing qui n'est pas si simple que ça. Mais je me posais simplement la question, c'est effectivement pourquoi des feuilletons d'investigation étaient si difficiles que ça à faire dans ces supports-là. Est-ce que c'était plutôt une question de volonté éditoriale ou une question technique?
Non, mais moi, si je prends l'exemple de Bolloré, encore une fois, à Libération, Isabelle et moi, on s'occupait des médias, du service média. Et le lundi, on allait parler d'un truc qui se passe à France Télévisions, le mardi d'un truc au CSA, le mercredi de Radio France, le jeudi peut-être de Canal+. Et là, c'est cette histoire de faire des choix très très forts et très très nets. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout, un quotidien traite une actualité généraliste. Alors on peut regretter qu'on ait tous vécu la situation souvent difficile de Libération, qui fait qu'il n'y ait pas eu 40 journalistes, 50, 100 journalistes de plus pour que, pendant que certains vont traiter l'actu au quotidien, on puisse fouiller, creuser en permanence. Et d'ailleurs, c'est des idées qu'on avait essayé de développer à Libération.
Le problème de Libération, mais d'autres quotidiens, c'est que au départ, ce sont des quotidiens papier, et que finalement, même sur Internet, on est mangé par une espèce de mécanique industrielle du papier. C'est-à-dire que quand on travaille à la fois pour le papier et pour le web, la mécanique industrielle est tellement lourde, celle du papier, que ça mange tout le reste finalement.
C'est-à-dire qu'il faut rendre le papier à telle heure.
Il faut rendre le papier à telle heure, et puis il y a aussi des rubriques. Nous, c'est aussi pour ça qu'on a voulu s'affranchir de rubriques. Quand on a des rubriques, à un moment donné, il faut les remplir. Alors parfois, on a beaucoup de choses et on n'a pas assez de pages. Quiconque a travaillé dans un quotidien connaît ça. Et puis, il y a des jours, on n'a rien du tout. On est obligé de remplir avec n'importe quoi. Donc là, Internet nous donne une liberté incroyable et une réactivité incroyable aussi. Ce qu'expliquait Patricia avec Grégory. Il y a un rebondissement. Patricia est là. Alors, avec aussi sa connaissance de l'affaire. Voilà, on a quand même affaire à une journaliste qui connaît très très bien l'affaire et qui peut arriver avec cette profondeur sur le feuilleton Grégory.
Et c'est une question aussi de faire du journalisme qu'a de la mémoire, effectivement, parce que moi, sur mes sujets, donc moi je travaille sur la transformation numérique de la musique, mais j'ai pas commencé à le faire quand je suis arrivé sur Les Jours. C'était des sujets que je faisais déjà dans Libération, sauf que dans Libération, ils étaient éparpillés, il y en avait de temps en temps, mais en fin de compte, on aurait pu les rassembler dans une obsession comme sur Les Jours. On aurait pu reprendre mes articles de Libération, les rassembler, leur donner un chapeau commun, parce qu'en fin de compte, ils racontaient de façon disparate une histoire commune, parce que je suis un peu obsédé par ce sujet-là, je parle un peu que de ça depuis le début, et ça aurait été possible, mais c'est vrai que sur Libération, bah, ils étaient extrêmement, extrêmement dispersés, ce qui voulait dire aussi que dans chaque papier, il fallait revenir à... il fallait re-raconter toute l'histoire, redonner des choses techniques aussi un petit peu pour que les lecteurs puissent comprendre, parce que je parle souvent de choses un petit peu techniques, etc. Donc en fin de compte, je passais les trois quarts de mon papier à redire ce que le lecteur ne savait pas forcément déjà, et pour lui donner un petit peu de nouveauté. Alors que sur Les Jours, ce qui est chouette, c'est que les papiers s'emboîtent, se nourrissent, se répondent, se poursuivent. Et si on veut plus d'informations sur une phrase de l'article, on peut aller lire ce que j'ai dit avant sur ce point-là précis, où là, je ne vais pas revenir pendant quatre pages sur ce point précis. Il y a une mémoire, et ça, c'est vraiment précieux quand on travaille sur des sujets un peu profonds.
Je trouve que c'est une chose qui frappe, en effet, en fréquentant le site, mais y compris à la lecture, et ça c'est plus étonnant d'une certaine manière en lisant les livres papier, qui eux n'ont pas d'hyperlien, donc sont forcés de se conformer à une forme plus traditionnelle, mais néanmoins probablement de la façon dont ils ont été conçus, je pense, dans vos esprits initialement, avant même d'être des livres, d'avoir été sur le site, on sent qu'il y a effectivement un rapport à la mémoire et à l'archive qui est différent et probablement plus fort et plus instinctif que dans beaucoup d'ouvrages qui se piquent d'être une enquête sur un sujet, enfin, y compris de qualité. Je trouve ça à la fois frappant. Et en même temps, je me dis qu'il y a quand même certains supports de presse qui sont confrontés à la nécessité de faire évoluer leur site web, de très rudimentaire ou de trop audacieux éventuellement, il y a 10 ans, que certains ont pu être. Je pense au premier Monde Interactif qui là, avait peut-être franchi trop d'étapes d'un coup et a perdu un peu tout le monde au passage. Mais quand on voit aujourd'hui la façon dont le Monde peut-être, et en tout cas, bon, et là c'est pas un quotidien, c'est un mensuel, c'est quand même beaucoup plus facile évidemment, mais le Monde diplomatique gère en fait son assise d'archives et le fait de faire des appels d'archives en fait en permanence en direction du lecteur, il y a quelque chose qui va complètement dans le sens de ce que vous promouvez au quotidien en fait.
Ouais, et il y a même des journaux qui se sont mis à faire des sujets en épisode aussi. On l'a vu. C'est notre petite fierté quand même que des journaux.
On dit toujours que l'imitation,
c'est un hommage. C'est très très bien. Non, mais surtout, c'est la preuve que c'est un bon système éditorial, en fait. Et que Internet permet... le mot hyperlien a été prononcé. C'est quand même le cœur d'Internet, enfin le cœur du web. C'est 1995, l'hyperlien. Et sans l'hyperlien, il n'y a pas de web. C'est au cœur de la machine. Donc, pourquoi faire du journalisme sur le web comme on le faisait sur le papier? C'est-à-dire, tous les jours, en fait, on jette nos papiers et en fait on les balance dans une sorte de grande cuve et c'est un bazar pas possible. Sur Libération, parce qu'on parlait de Libération, c'est plus facile de retrouver un article de Libération en cherchant dans Google que dans le moteur de recherche de Libération. Et c'est quand même parce que Google sait comment manipuler les hyperliens, les organiser, etc. etc. Donc c'est quelque chose de précieux pour que le travail ne soit pas perdu.
Quand vous cherchez un article du Monde qui n'est pas de la semaine, hein, c'est exactement
c'est
pareil.
La même chose
il vaut mieux le chercher sur Google que sur le moteur interne.
Mais ce travail sur la mémoire, en fait, est dû... c'est grâce à la manière dont sont bâties les obsessions des jours que ça peut marcher. Parce que si on prend un thème, moi j'avais pris le 36 qui est des orfèvres, par exemple, à un moment d'actualité, puisque le 36 allait déménager au Batignolles, donc c'était l'occasion de repartir dans l'histoire. Et du coup, puisqu'on a plein d'épisodes, on peut le bâtir avec des épisodes qui parlent un peu du passé, qui éclairent le présent, et puis des histoires nouvelles, genre le flic qui avait volé les 52 kilos de cocaïne au 36 quai des Orfèvres, se trouvait à côté de Boucle d'Or, un flic surnommé comme ça, qui avait participé à l'assassinat de Jacques Mesrine, le bandit. Donc c'est cette manière de bâtir en fait les sujets qui fait qu'on peut se permettre de rentrer loin dans le passé, d'étudier des archives, de garder la mémoire de l'histoire et puis de repartir sur des choses plus nouvelles.
Et de fait, quand on s'est construit, Sophie, on disait tout à l'heure qu'on a passé beaucoup de temps à réfléchir. On a par exemple, pendant un temps, le jeudi soir, on recevait des gens d'autres métiers que le nôtre pour construire les jours. Et on a reçu Frédéric Krivine, qui se trouve avoir été journaliste et qui est surtout scénariste de la série Un village français. Et on lui a demandé, mais voilà notre idée, comment on fait ? Et c'est aussi lui qui nous a pas mal fait gamberger sur cette façon de monter des obsessions, de monter des séries. C'est-à-dire quand on va lancer une série, on se dit quand même, est-ce que ça va tenir sur 10 épisodes, on va dire, est-ce qu'on a suffisamment de choses à raconter, comment est-ce qu'on va rebondir. Et dans une série longue, il faut quand même régulièrement qu'on revienne à l'intrigue principale pour nous rappeler, pour rappeler d'où on vient dans la série. C'est des techniques un peu empruntées à la littérature, de toute façon.
Et pour en revenir au livre, ça a été notre première diversification au jour. Ce partenariat avec les éditions Le Seuil pour créer les éditions Les Jours Le Seuil. Et ce qui est drôle, c'est que nous, notre métier, c'est de faire du journalisme. Donc, on ne réfléchit pas en livre. Sauf qu'il se trouve qu'on s'est rendu compte que notre manière de présenter l'info en épisode, ça formait des chapitres, et que, au bout du compte, comme par magie, chacune de nos obsessions, chacune de nos séries journalistiques, c'était un livre. Et finalement, pour les éditions du Seuil, il n'y avait qu'à le prendre et puis à le mettre dans les librairies.
L'origine, vous le savez tous, hein, certains des grands best-sellers, notamment en matière de romans d'aventure du 19e siècle, ont été construits par des feuilletonistes, avec cette pression incroyable à la production, parce qu'il fallait en sortir chaque jour ou chaque semaine. Et il y a une espèce de miracle un peu alchimique qui fait qu'à la fin, quand on rassemble tout, bon, il y a quelques incohérences, quelques trucs qui ont été inventés à l'épisode 4, puis on ne s'en souvenait plus à l'épisode 52. En effet, ça arrive. Mais globalement, à la fin, ça fait Les Trois Mousquetaires.
Je vous assure qu'on tire moins à la ligne que Balzac, en fait, dans les jours.
Et on les retravaille.
On l'aurait pas pris. On l'aurait pas pris, Balzac.
On travaille un petit peu les épisodes quand même pour que ce soit...
Pour que les redites de l'épisode précédent...
Et dans le Grégory, par exemple, il y a 3 chapitres supplémentaires, mais la base, elle est dans le feuilleton des jours, quoi.
Mais sur ça, alors pas sur l'aspect feuilleton, mais sur l'aspect se donner le temps de faire une enquête un peu approfondie, tout en étant relié à un quotidien, alors qui peut être un quotidien d'investigation chargé de douleurs, hein, mais pas nécessairement avec des enjeux nationaux, comme dans le cas de Grégory. En revanche, peut-être moins en apparence chargé de douleurs, mais avec des enjeux terrifiants du côté de l'Empire. Chargé de douleurs aussi, bien sûr, mais bon. Et en revanche, je pensais à des gens qui sont du côté de ce qu'on appelait, et qu'on appelle encore, hein, la bande dessinée, qu'on dit le roman graphique pour faire un peu plus chic, et où il y a tout un travail donc, de journalisme en fait, graphique qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années. Et je pense notamment à un récent travail d'Étienne Davodeau qui est retourné en fait sur un autre cold case célèbre qui est le gang des Lyonnais, du gang des Lyonnais jusqu'à l'affaire Boulin. Et en fait donc sur les dessous pas toujours très propres d'un certain gaullisme et du sac. Et c'est marrant de voir que il a construit en fait sa bande dessinée, puisque c'est avant tout un dessinateur scénariste mais un dessinateur, comme une investigation où il rencontre des témoins, donc il met en scène la rencontre des témoins, ce qu'ils acceptent de dire, ce qu'ils acceptent pas de dire, les moments de gêne. Et c'est vrai qu'on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait, alors bon, là c'est fait par le dessin, et non pas par la photographie, mais sur l'interaction entre le texte, l'image et le fait que ça... Et qu'on va aller revoir d'une façon différente une affaire qu'on a l'impression peut-être de connaître parce qu'on en a été arrosé, effectivement. Et je pense à l'affaire Grégory. Hein. Ouais. Il n'y a pas une Française ou un Français qui dit « c'est qui Grégory ?» Enfin, ouais. Tout le monde
tout le
sait.
Monde connaît.
Mais savoir exactement où on en était, ça, c'est une toute autre histoire. Hein. Moi, enfin, avant le 14 juin 2017... on m'aurait demandé, mais c'en est où l'affaire Grégory? Mais aucune idée. Moi, oui, je sais pas, il y en a pas un qui est mort.
Et puis, ce qui est dingue dans cette histoire Grégory, c'est qu'il y a vraiment des rebondissements naturels de l'histoire qui servent la narration et qui servent le feuilleton et l'obsession des jours. Parce que imaginez que le petit juge Lambert, qui avait tout foiré l'enquête par ailleurs hein, en 84-85, se suicide à la manière d'une scène de son roman policier qu'il allait sortir avec un sac plastique sur la tête en ayant picolé une bouteille de whisky quelques jours après le rebondissement de cette histoire en laissant des lettres posthumes. On était sidérés que le deuxième juge qui ait travaillé sur cette histoire, qui avait tout repris l'enquête pour dédouaner finalement Christine Villemain, la mère de Grégory, qui avait fini par être accusée, inculpée d'infanticide pendant 8 ans. Ce deuxième juge de l'époque, qui s'appelait le président Maurice Simon, finit par avoir une attaque cardiaque, tombé dans le coma. Il en ressort, il survit, mais il est amnésique. Le juge Simon, qui a passé 3 ans à retravailler toute cette histoire hyper compliquée, qui a toute la mémoire du dossier, qui est sur le point d'aboutir, il perd la mémoire du dossier. Et un jour, il y a son ami qui essaye de lui rafraîchir la mémoire. Et elle a l'impression que ça marche quand même, jusqu'au jour où le président Simon lui dit « Mais qui est ce petit garçon dont tu me parles si souvent là? Où est-ce qu'il est enterré ?» Enfin, voilà, donc il avait vraiment tout oublié. Bah, ça, c'est des ressorts dramatiques que l'on ne peut même pas inventer. Quoi.
Ça, c'est énorme. Alors j'en profite pour nos auditrices et pour nos auditeurs, et pour vous aussi, si vous ne l'avez pas en tête, je vous recommande absolument la lecture d'un roman d'Antoine Bellot qui s'appelle « Enquête sur la mort d'Émilie Brunet », dont le principal enquêteur, grand admirateur d'Agatha Christie par ailleurs, souffre de ce qu'on appelle amnésie entérograde, c'est-à-dire que chaque jour, en fait, il a oublié non pas sa mémoire à long terme, mais le jour précédent. Et donc, il doit prendre des notes chaque jour pour savoir comment reprendre, en fait, au petit matin quand il se réveille. Ce qui donne une façon assez étonnante de mener une enquête, parce qu'il y a effectivement beaucoup de blancs qu'il faut combler. Et la façon dont on les comble, évidemment, commence au bout d'un moment, elle-même, à manquer de fiabilité. Et donc, c'est quelque chose d'assez étonnant d'arriver dans ces conditions à mener une enquête. On se trouve que là, c'est de la pure fiction. Et donc, savoir que ça existe dans les faits, c'est toujours un peu glaçant. Mais...
Alors que nous, on puise tout ça dans la réalité.
C'est le moment d'histoire. De vous parler du nouveau slogan des jours, 0% fiction, 100% série.
Ah, c'est pas mal hein. Bravo.
Alors, moi, j'aimais bien, je le mentionne au passage, je l'ai pris sur une table en passant, là, juste en venant, et j'aime bien enfin un média qui touche le fond.
Voilà.
Et là, tout de suite, avec une très belle carte.
C'est aussi le petit ton qu'on veut donner au jour, le petit ton que j'espère être un peu marrant, un peu complice avec les lecteurs, et enfin un média qui touche le fond. C'est une agence de pub qui nous a trouvé ce slogan-là, et on l'aime bien, ces périodes de défiance terrible dans les médias qui touchent tout le temps le fond. Bah nous, oui, on le touche le fond et on l'assume.
Ce qui est important aussi avec Grégory, j'y pense parce que vous disiez l'affaire Grégory, tout le monde la connaît. Non, tout le monde la connaît pas. Et il faut savoir qu'au jour.fr, la moitié de nos lecteurs ont moins de 35 ans. Et moi, il y a des lecteurs qui m'ont dit, bah, moi, l'affaire Grégory, j'étais pas née. Je l'ai découvert avec Patricia Touranchot. J'entendais un bruit de fond, j'entendais l'histoire d'un petit garçon qui avait été tué, mais je connaissais pas. Et je l'ai découvert grâce au jour. C'est important aussi.
Tout à fait. Et d'autant plus que vous avez absolument raison de le signaler. Moi qui ai passé la cinquantaine, c'est quelque chose effectivement qui a été familier à un moment. D'autant plus que toute une culture populaire, pas toujours de bon goût, mais assez poilante, il faut être honnête, s'en était emparée du petit Grégory.
Ouais.
On pense à ce célèbre groupe qui s'appelait à l'instigation des Dead Kennedys de Gilles Biafra, qui s'appelait les Dead Grégorys, par exemple. Tout ça, ça a été une époque. Mais effectivement, en 2017, qui est bien lointaine, puisque c'était quand même il y a 33 ans, et oui, bien entendu, pour des gens plus jeunes, c'est effectivement quelque chose qui est dans le bruit de fond, dans le... Oui, on sait bien qu'il y a quelque chose, mais quoi ?
Mais quoi ?
Et j'ai trouvé que l'épilogue que vous avez écrit Patricia Touranchot, l'intitulé La recherche du temps perdu, c'est audacieux, puis ça nous permet de rappeler qu'on est dans une émission littéraire.
C'est Alice Giraud des jours qu'il avait trouvé. Et le prologue s'appelle pareil.
Absolument. Et j'ai trouvé qu'en tout cas, le ton était d'une grande justesse parce que tout en pointant, donc en résumé hein, d'un travail de près de 250 pages, en pointant en fait les manquements, les erreurs, les gâchis, les accidents, les malchances hein, de cette longue enquête qui s'est enlisée dans des sables vraiment mouvants hein, et pas seulement dans les eaux vaseuses de la Vologne, et ben vous réussissez aussi à rendre un peu justice finalement à chacun des acteurs. Et je trouve que c'est le contraire de l'ironie en fait à propos d'un truc qui traite d'affaires criminelles et justement et des mécanismes de la justice. Et donc elle est particulièrement intelligente et touchante, cette postface.
Merci.
Et qu'on va laisser le petit Grégory reposer provisoirement et on va parler donc de Vincent Bolloré. Moi, j'avais une petite question simplement, c'est pour m'ôter un doute. L'Empire Bolloré, donc là tout de suite, je me dis, ça va être très intense. Puis juste dessous, je vois, et alors pour moi, c'est un tout petit peu déceptif, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+. Parce que je me dis, mais bon sang, il fallait qu'il mange Canal+, pour que ça finisse par vous intéresser, Bolloré, les journalistes, ou quoi ?
Ben, on n'existait pas avant.
Vous voyez ce que je veux dire. Enfin,
le côté Afrique de Vincent Bolloré a été beaucoup traité, hein, journalistiquement. Voilà, il y a eu plusieurs livres. Voilà. Nous, c'est vrai qu'au moment où Vincent Bolloré a mis la main sur Canal+, on était en train de construire Les Jours. Et on a vu ça, on s'est dit, bon sang, mais il faut qu'on commence à creuser ça. On n'imaginait pas à l'époque qu'il y aurait 101 épisodes, que ça ne s'arrêterait pas. Et on n'imaginait pas non plus, parce qu'après tout, il aurait très bien pu couper les têtes de la précédente direction. Ça n'a rien de si original hein, quand un nouveau patron arrive dans une entreprise. Et puis redresser la boîte, et puis voilà, c'était fini, quoi. C'était 3 épisodes, et puis voilà. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme ça, et c'est ce qui est intéressant avec l'Empire, mais aussi avec les autres obsessions, c'est que en choisissant un sujet, ce sont des sujets qui ont des portées plus vastes en fait. L'histoire de Vincent Bolloré à Canal+, c'est aussi une histoire qui touche les médias en général, les médias français, voire internationaux. Donc ça raconte autre chose.
Ça raconte aussi une violence au travail, ça raconte une violence au travail. Ça raconte aussi des histoires de culture, on parle peut-être de télévision, mais l'incidence très directe du démantèlement de Canal+ par Vincent Bolloré, c'est des films français qui ne sont plus produits.
Oui, il ne faut pas oublier que Canal+, est le principal financier du cinéma français. Donc, mécaniquement, quand le chiffre d'affaires de Canal+ baisse, le cinéma français est moins financé.
Et puis, on a quelqu'un qui est hors norme en plus. C'est pas simplement un raideur, un financier, c'est quelqu'un qui exerce une vengeance par rapport à son précédent échec dans la télévision avec Directude, qui était quand même une télé totalement ratée, qui a abouti à Jean-Marc Morandini, pour vous dire. Et sinon, qui était une télé de patronage, il aime bien ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce type-là n'a pas de réaction de financier normal. Il se venge, en fait, de ce que lui a fait subir Canal+, d'arrogance, qui se moquait beaucoup de sa chaîne Direct8, et il continue comme ça à exercer cette espèce de revanche absurde au niveau du sens des affaires, mais passionnante dans celui de la comédie humaine, comme on dit.
C'est un raideur, c'est un homme d'affaires, mais avec une part d'irrationnel qui le rend fascinant, en fait.
Bah, surtout que, moi, c'est un sentiment, et je vois ça d'un peu loin, hein, mais effectivement, par rapport à d'autres milliardaires français qui ont eu, avant de se construire au fil des années, une respectabilité qui va aussi avec le nombre de milliards, hein, il faut être honnête, mais je pense notamment à Bernard Arnault et François Pinault, donc tout le monde sait que leurs débuts de carrière ont été tout sauf clean, enfin, avec des choses qui, effectivement, en d'autres temps, d'autres époques, d'autres pouvoirs politiques, qui auraient été traités comme étant à la limite, du mauvais côté de la limite du brigandage, pour certaines. Il y a eu, de toute façon, des affaires qui sont passées en justice, mais dont l'irrationalité qui est évidente, hein, aussi, je pense, chez des Bernard Arnault, François Pinault, mais qui sont à un stade plus âgé, notamment, hein, que Vincent Bolloré, qui ont commencé plus tôt. Mais c'est pas investi dans les mêmes choses, c'est vrai. Enfin, bon, tout le monde sait l'espèce de fascination pour l'art contemporain de François Pinault, qui prend des proportions, alors, où il garde toujours une rationalité, quand même, à la fin, parce qu'il n'a pas envie que ça lui coûte beaucoup d'argent, donc il sait y faire. Mais
oui,
quand même
Pinault, c'est quand même la boîte qui paye les œuvres d'art. Hein. C'est pas, il ne paye pas juste avec son...
Enfin, c'est Artemis qui les paye, enfin, oui. Mais, oui, la holding. Mmh. Mais et bon, Bernard Arnault, enfin, il y a des choses similaires. Mais effectivement, Bolloré, le fait que ça soit passé par une obsession à lui, hein, pour les médias et certains médias et pas tous, et puis pour la publicité, hein, est quand même quelque chose, oui, qui.
Ce qui est fascinant, c'est cette, ce schéma qu'il a, qui s'appelle l'intégration verticale, quelque chose qu'il érige en modèle. C'est-à-dire qu'il pense que un artiste universel qui appartient à Vivendi doit passer en concert à l'Olympia, qui appartient à Vivendi, doit être promu sur Canal+, qui appartient à Vivendi, dans le magazine gratuit CNews, qui appartient à Vincent Bolloré, ensuite se produire au Togo où Vincent Bolloré a lancé Canal Olympia, qui est une salle de spectacle qui rassemble Canal+ et l'Olympia, et qui vont aller voir ces artistes universels au Togo, les dockers de Vincent Bolloré qui travaillent sur ses ports. Et c'est intéressant la façon dont il théorise ça. Il le dit, on avait des enregistrements sur les jours où il parlait de Bono de U2 qui est chez Universal, en disant Bono c'est très bien, on le ficelle dans des contrats, hein, c'est son expression, et ensuite on l'exploite comme ça par petits bouts dans cette fameuse intégration verticale, sauf que c'est de la culture et que ça se... Même malgré ce que Sofian peut penser de Bono, et je sais qu'il n'en pense pas du bien, mais ça reste de la culture et ça se monnaie pas comme des containers.
On ne doit pas parler de U2 et de Bono ce soir parce que ça risquerait de nous entraîner trop loin et de voir des camps se former autour des tables de notre studio.
Bah, on est dans le même camp, hein, en l'occurrence avec Sofian. Mais bon.
Oui, moi aussi. Hein,
mais... Bon, moi, ça va être vite fait.
Ouais, voilà, Bono. Salut.
Mais on y reviendra tout à l'heure parce que, mentionnons-le tout de même, Boulevard du Stream, donc l'ouvrage de Sofian Fanen, démarre en fait par un discours du successeur de Pascal Nègre chez Universal, discours aux actionnaires de Vivendi, pour leur expliquer à quel point tout va très bien, Madame la Marquise. Universal, oui, c'est vrai que les supports ont changé, que les droits ont complètement changé, que le lien entre l'artiste et son producteur ne sont plus du tout les mêmes qu'avant, mais ne vous inquiétez pas, on continue à vous promettre des dividendes, des choses. Donc c'est assez magnifique parce qu'on retrouve effectivement, alors sachant qu'avant d'être un fantasme poussé à cette forme un peu obsessionnelle, en effet, hein, par Vincent Bolloré dans son empire, c'était le grand rêve qui a à la fois enthousiasmé les foules, en tout cas de commentateurs économiques, puis ensuite excité la meute de loups autour de Jean-Marie Messier, puisque c'est quelque chose qui date aussi de son époque. Le fait que les contenus et les contenants doivent...
Oui. Mais c'est fou comme en matière d'économie, on peut entendre les mêmes conneries sur des décennies, en fait. C'est toujours la même chose. Effectivement, c'était la même chose avec Jean-Marie Messier. Ça s'est planté comme on sait. Et 15 ans plus tard, voilà Vincent Bolloré qui refait la même chose. C'est fascinant et ça ne marche toujours pas.
Et qui va dire, de la même façon, quand il arrive à Canal+, il parle des guignols, qu'il veut internationaliser, il veut mettre de l'argent, et il dit l'humour, c'est pareil partout. Il dit l'humour, c'est toujours un homme, une femme, un amant dans le placard. Je crois pas qu'il utilise le terme d'amant dans le placard.
Non, il parle des caractères de la Bruyère. Oui, il dit l'humour, c'est international. Or, on sait quand même qu'il n'y a rien de moins partagé que l'humour, en fait.
Ah oui, parce que... pour apprécier certains des immenses acteurs de stand-off yiddish new-yorkais...
Oui, ça marche un peu moins en France.
Ça marche vachement moins en France, quand même. Et je ne parle pas de l'humour des salles de spectacle de Pékin, que je ne connais personnellement pas, mais dont j'imagine que ça sera encore une autre histoire. Quoi qu'en pense Vincent Bolloré, ouais, en effet. Ouais. Mais c'est curieux, effectivement, comme ces obsessions... Alors, une fois qu'on en a le pouvoir, en fait, on peut leur donner un début de matérialité. Et c'est une des choses que montre bien l'Empire. C'est qu'il y a des convictions. Et après, bon, c'est une des choses que l'ouvrage démonte magnifiquement, mais j'irais sans avoir l'air d'y toucher, d'une certaine façon, c'est de voir à quel point, quand il y a un rêve comme ça, un peu conquérant, avec sa part d'irrationnel et sa part de rationnel éventuel, il faut quand même pas exagérer, mais c'est à quel point c'est facile de trouver les mercenaires pour le faire. Quoi.
Ah oui, ça c'est quand même très présent. Dans l'Empire Bolloré, il y a des petits soldats. Il y a des hommes, et je parle d'hommes à dessein, parce qu'il y a très très peu de femmes. Et celles qui existent ont pour surnom les Bolognaises. Donc ce sont des hommes, franchement, on croirait qu'ils les fabriquent en série. C'est-à-dire qu'ils ont presque tous le même physique. Alors on en a retrouvé un à ITélé, qui s'appelait Serge Nedjar. On en a retrouvé un chez les Guignols qui s'appelait David Gauthier. On en a trouvé un à la tête de Canal+ qui s'appelle, j'ai oublié
Jean-Christophe
Thierry. Ah oui, Jean-Christophe Thierry. C'est le mec, il est totalement ectoplasmique. Et en fait, c'est des personnes qui n'ont aucun scrupule et qui ont le doigt sur la couture du pantalon, qui obéissent à Vincent Bolloré, qui décide de tout. Et leur rôle dans la vie, c'est d'exécuter. Voilà. C'est d'exécuter à tous les sens du terme. Et Vincent Bolloré s'appuie sur ces hommes-là qui sont généralement des médiocres, qui seraient jamais arrivés à des postes aussi prestigieux sans lui, qui donc lui sont redevables et font exactement tout ce qu'il leur dit.
Quand on parle de médiocrité, on n'exagère pas en fait, hein, pas du tout. Par exemple, David Gauthier qui s'occupe des Guignols, il y a une marionnette de Kim Kardashian qu'il trouve un peu trop décolletée. En fait, trouver Kim Kardashian un peu trop décolleté, c'est ahurissant.
Voilà. Alors, on va continuer avec l'Empire Bolloré, mais par sa partie universelle, puisque Universal joue évidemment un rôle essentiel, même si c'est de façon parfois curieuse, dans Boulevard du Stream. Mais avant ça, j'avais quand même une dernière question, c'est qu'à la différence d'autres capitaines d'industrie, milliardaires, investisseurs, y compris dans les médias, donc avec la part de mégalomanie qui va avec la chose, parce que sinon souvent on se lance pas nécessairement dans ce genre d'aventure, mais il se murmure parfois que, à la différence de beaucoup d'autres qui aiment bien finalement laisser glisser l'essentiel de ce qui se dit en mal sur eux, Vincent Bolloré est parfois assez vindicatif. Donc est-ce que vous n'avez pas peur quand même un peu de...
Non, on n'a pas peur. Non, ce qui est intéressant par rapport à ça chez Vincent Bolloré, comme quoi il n'y a pas que de l'irrationnel chez lui, c'est que effectivement Vincent Bolloré attaque beaucoup les journalistes, mais au sujet de l'Afrique en fait. Et c'est là où le bât blesse, en fait, c'est l'Afrique. Le cœur de son métier, le cœur de son industrie, là où est l'argent, c'est l'Afrique. Il n'a pas, pour l'instant, il n'a jamais attaqué sur
les médias ou la publicité.
Voilà, c'est ça. Quand il a attaqué complément d'enquête de France 2 au tribunal de commerce, qui leur a réclamé 50 millions d'euros quand même, c'était sur des parties africaines en fait. Alors que le documentaire parlait de l'audiovisuel de Canal+, il a attaqué sur les parties africaines.
Sur lesquelles il y avait 40 secondes ou 2 minutes.
Non, et 10 minutes dans le complément d'enquête, oui, voilà.
Mais peut-être qu'il nous attaquera un jour. C'est vrai qu'il aime ça. Et d'ailleurs, c'est quand on parle de procès Bayon, de procédure Bayon du moins, on sait que ça sert à ça. Quand il demande 50 millions d'euros à France Télévisions, ça veut dire que tous les autres médias qui veulent enquêter sur Vincent Bolloré vont peut-être y réfléchir à deux fois. Parce que si Vincent Bolloré nous attaque les jours demain...
Il va falloir
qu'on trouve un avocat généreux.
Mais même France 2, hein, oui. France 2, ils ont dépensé 13 millions, je crois qu'ils ont dépensé, je ne sais plus à combien ils en sont de frais de justice. Moi, c'est énorme, quoi. Et c'est fait pour que les autres journalistes se disent je vais faire gaffe quand même avant d'écrire un papier parce que s'ils m'attaquent, je vais avoir des problèmes. Et encore, on parle de France 2. On parle de Tristan Ouellex qui est en CDI à France 2. On ne parle pas d'un pigiste ou d'un jeune média qui aurait 2 ans, par exemple.
S'évertuer effectivement à vanter les mérites et les absences de mérites de certains des aspects de nos démocraties actuelles. C'est vrai que le système judiciaire est parfait, égalitaire et démocratique, mais demande des mises de fonds que l'on peut récupérer in fine quand on est dans son bon droit, mais qui demandent entre-temps un problème de financement en fait, qui n'est pas toujours négligeable pour le plus petit des deux en présence. Mmh. Et donc effectivement, on ne va pas dire que l'argent va à l'argent, mais si, un petit peu quand même.
Un petit peu.
Complètement.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Et ben on va continuer avec de la musique, parce que la musique aussi, c'est on l'oublie jamais en fait, mais on sait que c'est aussi une économie, la musique. C'est une technologie, c'est des technologies, et que la musique a effectivement donc été révolutionnée. Et Sofiane Fenen le dit dès le début de son livre que probablement...
C'est ma mère qui va râler, sinon. Ouais. Attention.
Sofiane Fenen nous le dit, en fait, dès le début donc, de son ouvrage paru au Castor Astral, dans la collection Castor Musique, il y a quelques mois. Dématérialisation, en fait, le passage de l'analogique au numérique n'était pas en soi à ce point une révolution dans l'histoire de la musique, mais le passage au streaming... au fait donc de ne plus avoir besoin de stocker physiquement les fichiers, quel que soit leur degré de compression sur son propre ordinateur, effectivement ouvre des perspectives complètement différentes, révolutionne les modèles économiques et rebat potentiellement les cartes entre les différents acteurs du monde de la musique. Alors, tout simplement, Sofian Fanen, d'où au départ vient cet intérêt pour l'économie de la musique en fait ?
De la musique elle-même, en fait. Moi, je suis un journaliste musique avant tout, très simplement. C'est-à-dire, j'écoute des disques et j'en parle, et je vais voir des concerts et j'en parle. Enfin, c'est fondamentalement mon travail, mon champ journalistique. Et moi, je suis de la génération Napster, la génération MP3. C'est-à-dire que j'étais étudiant quand le MP3 a surgi, quand Napster a surgi. Je suis tombé à plein de temps. J'ai vécu ces années, la fin des années 90, les années 2000, la bataille, le partage contre le piratage, quoi. Voilà, c'est deux mots qui disent toutes les années 2000. Moi, je les ai vécu en tant qu'internaute, puis en tant que journaliste, parce que j'ai commencé mes activités de journaliste en 2003. Je suis arrivé à Libération fin 2007. Quand je suis arrivé à Libé, on était au cœur de la bataille qu'allait mener à la DOPI, donc bataille intellectuelle, bataille juridique et bataille politique, législative. Donc je pouvais pas, moi, rester en dehors de ce sujet-là. Ça me paraissait... ça me gênait, en fait. Ça me paraissait pas possible de continuer à écouter mes petits disques sans me demander qui m'envoie ces disques, pourquoi, comment ça fonctionne, comment ils sont faits, comment les artistes gagnent leur vie, comment tout ça fonctionne. Et surtout, quelle est, ma grande interrogation, c'était quel est le rôle de l'auditeur. Parce que c'est ça, en fait, que le MP3 et la circulation de la musique sur Internet est le vrai changement fondamental, c'est que l'auditeur n'était qu'un consommateur avant cette période-là. C'est-à-dire, on était condamné à aller acheter un disque dans un magasin et à l'écouter, à l'aimer ou à ne pas l'aimer, ou alors on allait le prendre à la bibliothèque si on avait cette chance d'avoir une médiathèque dans son quartier. Mais à l'époque des vinyles, c'était pas ça. Ou alors on l'empruntait à quelqu'un, c'était compliqué de faire des copies, etc. Mais bref, voilà, on était globalement un consommateur et le monde de la musique se moquait bien de ce qu'on pouvait faire de la musique. On pouvait écouter son disque une fois ou 850 fois, c'était pareil. Alors qu'à partir du MP3, l'internaute auditeur est devenu acteur du partage de la musique. Il a commencé à l'envoyer partout. Il a commencé à dire vous devriez écouter ce disque-là. Il est vraiment super. Et en plus, je vous le donne. Et ça a quand même changé absolument tout. Et ça a donné un pouvoir certain à l'internaute auditeur. Et moi, c'est ça qui m'intéressait dans les années 2000. Et c'est l'une des préoccupations d'ailleurs des années qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que ce pouvoir qui avait été pris par l'auditeur, il est en train de le perdre, l'auditeur, je pense, en ce moment. Face aux plateformes de streaming.
Alors, une chose que je trouve très, très, très intéressante dans ce que vous dites là, c'est que cette notion effectivement du pouvoir de l'auditeur et de son rôle entre acteur et consommateur. Et c'est vrai que moi, je pense à un film mythique, mais qui passe, enfin un livre mythique avant même d'être un film, mais qui parle de la période précédente, hein, donc qui parle de l'époque des vinyles et des CD, même si c'est plutôt les vinyles parce que c'est l'eau de fidélité de Nick Hornby, donc qui est d'abord un roman fabuleux avant d'être devenu un film. Enfin, si vous l'avez pas vu et que vous aimez la musique, j'imagine que vous l'avez vu, mais sinon, oui. Je vous le recommande évidemment parce que c'est même au cinquième visionnage, on est toujours autant mort de rire. Et j'en profite au passage pour faire cette brève digression parce que en ce moment il y a aussi une période de football. Que Nick Hornby est aussi l'auteur d'un extraordinaire carton jaune, en fait, qui parle de ce que ça veut dire d'être fan d'Arsenal, qui est disponible à la librairie Ground Control, et que, bien entendu, il faut lire également. Parce que Nick Hornby est quand même quelqu'un de drôle et d'intelligent. Mais en tout cas, sur Haute Fidélité, ce que j'adorais, c'était effectivement, d'une part, le fait de faire des listes, et puis le fait d'utiliser le fait de faire une cassette, tape, pour justement, comme moyen à la fois d'expression culturelle et de se transformer de consommateur en acteur, même très modeste. Chose qui a complètement changé avec la numérisation et avec la disponibilité en fait et les accès. Alors je sais que vous mentionnez également comme l'un des travaux fondateurs qui sous-tend toute la réflexion en fait sur le streaming, qui est l'âge de l'accès de Jeremy Rifkin de 2000, qui marque effectivement une étape intellectuelle importante par rapport à cette question de la possession par rapport à l'accès. Et ce qui est intéressant, c'est que sans les notes, hein, on parle d'un livre qui fait à peine 250 pages, donc très
c'est serré.
Voilà, c'est très serré, c'est très dense.
Ils se moquent de moi parce que j'écris très long au jour. Je fais toujours des articles extrêmement longs.
Mais il y a énormément d'informations. On balaye. J'ai employé tout à l'heure le mot, mais c'était pas par hasard, le mot d'archéologie. Et pour moi, c'est un mot extrêmement positif. C'est qu'en 250 pages, on reprend effectivement aux racines comment s'est né le streaming. Et avec ce mélange très détonnant, très riche et très curieux hein, d'artistes, de musiciens, de gens qui sont vraiment de la musique, et puis de gens qui sont des informaticiens, des codeurs, des gens qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des start-upers, et pas toujours que dans le bon sens du terme, justement, dans un sens un peu macronien. Pardon, j'ai dit ça à l'antenne, c'est pas bien. Enfin bon, je crois que Gun Control en a vu d'autres.
Je crois que le raid va arriver pour venir vous saisir dans pas longtemps.
Il y a toujours ce petit risque.
Les jours sont des start-up.
Mais c'est une histoire complexe. C'est-à-dire qu'on croit parler au départ, effectivement, de musique, de ce que c'est d'être auditeur, de ce que c'est d'être intéressé par la musique, de vouloir chercher de la variété, de la curiosité. Et on finit, en fait, en pleine économie hardcore.
C'est la grande tension du monde de la musique. C'est-à-dire que le monde visible est un monde d'artistes sympathiques qui vont chez Nagui faire des reprises, tout va bien, tout le monde, enfin voilà, c'est super, on fait de la musique, on fait des concerts, je vous adore, vous êtes mon public, chérie, etc., etc. Mais derrière, c'est une économie de sauvages. C'est un monde de sauvages et c'est pas toujours très joli. Et il y a des contrats sur la table et il y a beaucoup d'argent sur la table. Et tout d'un coup, quand il y a moins d'argent, eh ben ça énerve vraiment tout le monde. Et donc ça a été vraiment dur. Et surtout, ce que j'ai voulu montrer dans le bouquin, c'est justement, même au sein même des maisons de disques, il y a toujours cette tension perpétuelle entre les gens qui sont dans l'artistique, qui sont effectivement au contact avec les artistes. Et être au contact avec les artistes, c'est un vrai boulot, parce que les artistes, ils sont compliqués, ils sont même compliqués avec eux-mêmes, ils savent pas toujours où ils en sont, etc. Et donc faire accoucher un artiste de sa musique pour qu'elle dise quelque chose de son époque, etc., parce qu'on pense que cet artiste vaut le coup, c'est un vrai boulot. Et ça, c'est un boulot de dingue, et c'est un boulot passionnant, et pour lequel j'ai énormément de respect. Et les étages au-dessus, les gens qui disent non mais laisse tomber ce mec là, ça nous coûte trop d'argent, on va plutôt demander à Matt Pokora de faire de la prise de Claude François. Et donc il y a toujours cette tension là entre les intentions musicales, artistiques, et même dans la plus grosse des majors, même chez Universal, il y a cette tension qui est extrêmement dure. Et en ce moment, par exemple, pour donner un truc très 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 concret, et c'est pour ça que l'histoire nourrit le présent toujours, en ce moment chez Universal il y a un grand, et c'est pareil dans toutes les majors, mais chez Universal c'est assez extrême. Ils ont décidé de mettre tout leur argent sur le rap, parce qu'il n'y a que ça qui stream, il n'y a que ça qui marche, il n'y a que ça qui rapporte. Donc on met tout notre argent sur le rap, en oubliant peut-être qu'à un moment ou un autre, le public qui n'est pas rap et qui écoute autre chose va peut-être arriver sur le streaming, et que s'il se retrouve avec des vieux albums de Florent Pagny, ça va peut-être pas le faire complètement. Et donc ils sont en train d'abandonner complètement, en race campagne, des étages entiers qui font de la musique classique, qui font du jazz, qui font ce qu'on appelait avant la world music, etc. Enfin, qui font plein de choses. Et aujourd'hui, bah, ces étages-là, ils savent pas trop quoi faire de leur vie. Ils se sentent très malmenés et ils sont assez malheureux. Et donc, on est dans ce moment-là. Et c'est d'ailleurs un moment que les majors ont déjà vécu dans les années 2000, quand il y avait beaucoup moins d'argent et qu'elles ont décidé d'arrêter de produire des jeunes artistes. Et quand la musique est repartie, elles n'avaient plus de jeunes artistes. Elles ont été obligées d'aller en acheter ailleurs, etc. Donc, en fait, elles reproduisent beaucoup les erreurs.
Clairement, c'était une des choses qui était flagrante, en tout cas sur les majors, hein, dans les années 2000, en effet, au moment de l'effondrement du CD. Enfin, on a bien vu que, profitant, j'ose le dire, hein, profitant en disant, dans une logique, puisque les cinq étaient toutes des boîtes cotées, donc devant rendre des comptes à des actionnaires, devant maintenir des flux de dividendes non négligeables, on fait des plans sociaux massifs, en France ou ailleurs. Hein, et donc, ont taillé à mort dans les effectifs administratifs, comme toutes les boîtes de toute industrie confondues dans ces années-là, mais ont aussi taillé dans les effectifs de directeur artistique, qui a été le poste le plus massacré par toutes les majeures, en fait. Disant qu'il faudrait effectivement cette relation intime à l'artiste. Est-ce qu'on en a vraiment tant besoin que ça, à part sur 3-4 stars qui font le 45% ou 65% des profits de la multinationale? Et les retours de bâton, certains se sont produits effectivement derrière, et les prochains vont arriver également. Mais comme le disait tout à l'heure Isabelle Roberts, les gens n'apprennent pas toujours de leurs erreurs.
Je parle de conneries, je crois, mais.
Et ils ont un, comment dire, ils ont un petit peu appris pour leur pour pas faire que leur taper dessus, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Bien sûr.
Le monde de la musique a quand même appris de ces années 2000-2010, et notamment du surgissement du MP3, où ils étaient un peu pétrifiés, on va dire. Ils ont monté, toutes les majors en ce moment ont monté des cellules de réflexion sur justement sur l'évolution de la musique, comment on va faire. Ils travaillent beaucoup sur les assistants vocaux en ce moment, par exemple. Après, voilà, tous les mots-clés un peu en ce moment, ils sont en plein dedans, la blockchain, les machins, les bidules. Mais globalement, ils ont des gens qui sont payés pour réfléchir. Alors que dans les années 90, leur grand problème, c'est qu'ils n'avaient pas de gens qui étaient payés pour juste se poser et regarder ce que les gens faisaient de la musique, regarder comment ils écoutaient, parce que tout simplement l'argent coulait à flot, même plus qu'à flot dans les années 90 avec le CD, et que jamais personne n'aurait pensé que tout ça pouvait s'arrêter aussi violemment, c'est-à-dire quand même en 2-3 ans.
Voilà, on approche de la fin de notre émission, donc moi je tenais, alors non pas pour conclure parce que ce serait bien ambitieux, mais simplement de rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que c'est à la fois rare et je vais le dire beau en fait, que un travail éditorial, donc qu'il soit sur internet ou sous forme papier traditionnel comme c'est le cas là sous mes yeux, puisse, tout en se concentrant sur l'actualité, sur une certaine façon de traiter l'actualité, en fait, contribuer à nous redonner une mémoire, en fait, sur des choses qui s'étendent 10 ans dans le passé, 15 ans dans le passé, ou beaucoup plus, parce qu'effectivement, c'est une des choses qui disparaît le plus facilement, en fait, cette mémoire, on le disait tout à l'heure, il y a des aspects générationnels, tout simplement, c'est pas nécessairement... il n'y a aucune conspiration derrière ça, c'est un simple fait. Mais en tout cas, on le sait bien, et les gens beaucoup plus intelligents que nous l'ont dit, si on perd la mémoire et on perd l'histoire, on se condamne à la refaire une deuxième fois, sous forme de tragédie ou de farce, on ne sait pas toujours. Et en tout cas, on préfère l'éviter dans certains cas. Donc vraiment, c'est précieux. Donc merci beaucoup à vous. Donc merci beaucoup à Patricia Tourancheau d'avoir nous avoir offert la Grégory, la machination familiale, à Sofian Fanen de nous avoir offert Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, la musique libérée, et à Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts de nous avoir offert l'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, et je le redis, et bien d'autres choses.
Merci à vous.
Merci à vous. Beaucoup.
Man! Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.